Vous écoutez On lit pour vous.
Comment le journalisme peut-il se réinventer? Un texte de Nick Newman, paru le 2 juillet 2026 dans Le Courrier de l'UNESCO. Alors que les frontières entre l'information, le divertissement et l'opinion se brouillent, l'avenir du journalisme pourrait résider dans ce qui le rend unique, sa capacité à aider les sociétés à se comprendre elles-mêmes grâce à des récits fiables, responsables et porteurs de sens. Partout dans le monde, les médias traditionnels vacillent. L'intelligence artificielle, IA, transforme la manière dont les individus s'informent, tandis que les grandes plateformes privilégient le divertissement et les contenus centrés sur les personnalités. Les audiences se fragmentent. La confiance s'érode. Et les journalistes sont confrontés à une précarité croissante. Dans le même temps, la désinformation prospère, amplifiée par des algorithmes conçus pour capter l'audience. Dans ce contexte de plus en plus concurrentiel et confus, le journalisme se retrouve pris en étau. Et pourtant, dans un monde marqué par l'instabilité géopolitique, le changement climatique, les guerres, les migrations et l'incertitude économique, les citoyens ont plus que jamais besoin d'informations dignes de confiance pour comprendre les événements et prendre des décisions éclairées. Le défi du journalisme aujourd'hui n'est pas de survivre aux changements technologiques, mais de s'adapter sans sacrifier ses valeurs. Recul des médias traditionnels. L'une des tendances les plus marquantes de la dernière décennie est le recul de l'influence des médias traditionnels, notamment auprès des jeunes. Le public des journaux télévisés vieillit. La presse écrite décline et même les sites d'information peinent à fidéliser leurs utilisateurs. De plus en plus, on accède à l'actualité sur les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, les applications, les agrégateurs de nouvelles, ainsi que des moteurs de réponse alimentés par l'IA. Selon le Digital News Report 2025 de l'Institut Reuter, les personnes qui s'informent sur les réseaux sociaux sont plus nombreuses que celles qui s'en remettent à la télévision. C'est une première aux États-Unis. Dans le monde entier, près de la moitié des moins de 25 ans déclarent désormais que les réseaux sociaux constituent leur principale source d'information, une tendance particulièrement marquée en Afrique, en Amérique latine et dans certaines régions d'Asie. Parallèlement, l'IA générative transforme les usages. Ces nouveaux outils peuvent résumer et synthétiser des contenus sans que l'utilisateur n'ait besoin de consulter les sources originales. Les organes de presse, qui dépendaient depuis longtemps du trafic généré par les moteurs de recherche pour attirer des lecteurs et des revenus publicitaires, s'attendent à perdre près de la moitié de leur trafic dans les prochaines années, selon l'enquête Digital Trends 2026 de l'Institut Reuter. Économie de l'attention. Ces évolutions surviennent alors même que l'industrie de l'information peine déjà à capter l'attention dans un environnement saturé d'informations, de divertissement et de distraction en tout genre. Dans cette économie de l'attention, la concurrence ne vient pas seulement des autres médias, mais aussi des créateurs de contenu, des influenceurs, des streamers, des podcasteurs et autres fils personnalisés conçus pour capter l'audience. De fait, l'actualité et la politique font de moins en moins recette. Selon le Digital News Report 2025, à l'échelle internationale, 40% des personnes interrogées déclarent éviter parfois ou souvent les informations, contre 29% en 2017. Elles expliquent que l'actualité leur donne souvent un sentiment d'impuissance, d'épuisement, d'anxiété ou de surcharge. D'autres jugent la couverture médiatique répétitive, trop négative ou décalée par rapport à leur quotidien. Ce désengagement menace le journalisme, mais aussi la démocratie elle-même. Lorsque les citoyens se détournent de l'information publique, ils sont plus exposés à la manipulation, aux théories complotistes et aux récits polarisants. Confiance en recul. Pendant des décennies, les organisations médiatiques ont construit leur autorité autour de la puissance de leurs marques institutionnelles et de normes éditoriales claires. Mais dans de nombreux pays, parmi les plus peuplés, la confiance est en recul. Aujourd'hui, de nombreux publics, en particulier les jeunes utilisateurs, se fient davantage à des individus qu'à des institutions. Les créateurs de contenu, podcasteurs, youtubeurs, streamers et influenceurs sont devenus des voix puissantes dans l'espace public. Certains de ces créateurs produisent un journalisme de qualité très suivi. D'autres se spécialisent dans le commentaire, le militantisme ou le journalisme d'opinion. Mais contrairement aux journalistes traditionnels, ils sont rarement soumis à des lignes éditoriales, des exigences de transparence ou des obligations d'équilibre et de vérification. Les frontières entre journalisme, divertissement et opinion se brouillent. Cette économie des créateurs est accélérée par l'évolution des plateformes. Les réseaux sociaux deviennent moins sociaux et plus algorithmiques. De plus en plus, les utilisateurs voient des contenus qui ne proviennent plus de leurs proches, mais de créateurs sélectionnés par des systèmes de recommandation pilotés par l'IA. Les contenus centrés sur les personnalités fonctionnent souvent mieux que les reportages parce qu'ils sont plus divertissants, mais aussi parce qu'ils paraissent plus authentiques et plus proches du public. Face à ces évolutions, les médias traditionnels ne sont pas restés sans réaction. Certains investissent davantage dans les podcasts, les lettres d'information, les vidéos et un journalisme incarné par des personnalités. D'autres encouragent leurs journalistes à développer des relations directes avec l'audience. Des organes de presse qui minimisaient autrefois l'importance des journalistes en tant qu'individus, comme l'hebdomadaire britannique The Economist, place désormais les visages, les personnalités et les récits de vie au cœur de leur stratégie. Vous écoutez « Comment le journalisme peut-il se réinventer ?» un texte de Nick Newman, paru le 2 juillet 2026 dans Le Courrier de l'UNESCO. Deepfakes et voix synthétique. Parallèlement, la mésinformation et la désinformation gagnent du terrain. Notre enquête, Digital News Report, montre que l'inquiétude du public face aux contenus faux ou trompeurs progresse. Plus de la moitié des personnes interrogées, 58%, déclarent avoir du mal à distinguer le vrai du faux dans les actualités en ligne. Désormais, l'IA générative menace d'intensifier ce phénomène en réduisant drastiquement le coût de production de faux textes, d'images, de fichiers audio et vidéo. Les deepfakes, les voix synthétiques et la propagande générée par l'IA ont déjà fait leur apparition dans des campagnes politiques. Mais le plus grand danger réside peut-être dans le volume. Internet risque d'être submergé par des contenus de faible qualité, sensationnalistes ou trompeurs. Si les citoyens ne savent plus à quelle source se fier, l'autorité du reportage professionnel pourrait encore s'affaiblir. Dans le même temps, les attaques contre les journalistes et les médias indépendants se sont intensifiées dans de nombreux pays. Déjà confrontés à une baisse des revenus, à la précarité, à une réduction des effectifs dans les rédactions, les journalistes font face à un harcèlement en ligne croissant. Le journalisme local, en particulier, s'est affaibli. Dans de nombreuses régions, les déserts médiatiques s'étendent à mesure que les petits médias ferment ou réduisent leur couverture. Nouveau format. Et pourtant, l'industrie de l'information a montré sa capacité à s'adapter. Sa survie en dépend. Les enquêtes internationales mettent en évidence une forte demande en faveur d'un journalisme précis, impartial, transparent et de qualité. Le public réclame des reportages capables de décortiquer des sujets complexes et de fournir des informations fiables. Le public des jeunes préfère désormais les formats vidéo et audio. Les podcasts, en particulier, sont devenus un espace important de nuances, de profondeur et de proximité à une époque où une grande partie de la communication en ligne paraît rapide, fragmentée et polarisée. Le journalisme vidéo, les lettres d'information, les formats interactifs et les récits déclinés sur différents supports peuvent rendre le journalisme plus engageant sans rien sacrifier sur le fond. Parallèlement, de nombreux médias expérimentent différents formats comme le journalisme explicatif, les reportages axés sur les solutions ou les approches communautaires. La couverture de sujets comme le changement climatique, par exemple, devrait offrir davantage d'explications claires, de solutions pratiques. L'essor de collaborations journalistiques transfrontalières est une autre tendance marquante. Les organisations de presse mettent en effet de plus en plus leurs forces en commun pour traiter des enquêtes aux ramifications internationales qu'aucune rédaction ne pourrait facilement mener seule. Des réseaux tels que l'International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, et l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, ont coordonné des reportages sur la criminalité, les enjeux environnementaux ou encore la désinformation dans plusieurs pays. Des groupes comme Billingcat, basés aux Pays-Bas, ont été pionniers dans la vérification des faits et les enquêtes fondées sur des sources ouvertes, en combinant le travail des professionnels de l'information avec un réseau de bénévoles et de journalistes citoyens. De telles collaborations sont de nature à renforcer la portée du journalisme d'intérêt public, à une époque où de nombreuses rédactions sont confrontées à des pressions économiques et politique. Certains éditeurs redécouvrent la valeur d'un journalisme plus lent et plus réfléchi. Les quotidiens britanniques The Guardian et The Financial Times ont considérablement réduit le nombre de leurs articles sans nuire à la fidélité de leurs lecteurs. Le site danois de Slow News Zetland a étendu sa présence avec des déclinaisons locales en Finlande et en Norvège. L'IA pourrait également apporter des solutions en aidant les journalistes à analyser des données, personnaliser les formats, traduire des contenus et automatiser certaines tâches. Utilisées de manière responsable, ces technologies pourraient libérer du temps pour les enquêtes originales et les récits de vie. Mais cela nécessitera des normes éthiques claires, de la transparence, un contrôle éditorial et une responsabilité publique. En définitive, l'avenir du journalisme dépendra peut-être moins de la technologie elle-même que de la capacité des organisations médiatiques à reconstruire des relations de confiance avec leur public. Les médias restent parmi les rares institutions dédiées à la vérification de l'information dans l'intérêt public. Dans un écosystème informationnel polarisé et fragmenté, ce rôle devient encore plus crucial. Des initiatives comme BBC Verify ont vu le jour avec pour objectif d'expliquer davantage au public les processus de vérification. Les méthodes d'enquête en sources ouvertes montrent également comment la transparence peut renforcer la confiance. La crise actuelle du journalisme n'est donc pas seulement une histoire de déclin. C'est aussi une histoire de transition. Les formes, les formats et les modèles économiques du journalisme évoluent, mais le besoin fondamental d'une information fiable demeure. Si le journalisme parvient à s'adapter aux nouvelles technologies tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux, précision, équité, transparence et indépendance, il peut réussir à parler aux nouvelles générations. C'était « Comment le journalisme peut-il se réinventer ?» un texte de Nick Newman, paru le 2 juillet 2026 dans Le Courrier de l'UNESCO.
Ce qu'il faut savoir avant un premier vol en montgolfière. Un texte commandité paru le 29 juin 2026 dans la presse. S'envoler dans un ballon géant est une activité inoubliable qui offre l'occasion d'admirer des paysages d'un point de vue tout à fait unique. Cette expérience demeure pourtant méconnue de la plupart des gens. Voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une première aventure. 1. Quelques préparatifs s'imposent avant le départ. Au Québec, un vol partagé en montgolfière coûte généralement entre 250 et 400 $ par personne, selon l'opérateur et le forfait. Prévoyez de 2 à 4 heures pour l'ensemble de l'activité. Côté habillement, portez des chaussures fermées et des couches de vêtements confortables. La température en altitude demeure plutôt semblable à celle du sol, puisque la montgolfière se déplace avec le vent et que le brûleur décharge une certaine chaleur. Cependant, les départs ont souvent lieu tôt le matin ou en fin de journée, lorsque le temps peut être frisquet. 2. La météo a toujours le dernier mot. Même lors d'une belle journée d'été, votre pilote évalue les vents, la visibilité, la couverture nuageuse et les risques de pluie avant chaque envol. Des vents soutenus de 13 à 20 km/h, selon l'équipement et l'opérateur, peuvent suffire à rendre le décollage ou l'atterrissage trop risqué. La pluie force généralement le report de l'activité. Même légère, elle peut alourdir l'enveloppe, réduire la visibilité et compliquer les manœuvres. 3. Gonfler la montgolfière, c'est très impressionnant. De puissants ventilateurs remplissent d'air froid ce qui ressemble d'abord à une immense couverture colorée. Le brûleur est ensuite allumé et la montgolfière se redresse grâce à l'air chaud. Toute cette préparation nécessite de 15 à 40 minutes. Avant l'embarquement, votre pilote vous présente ses consignes de sécurité ainsi qu'un aperçu de l'aventure qui vous attend. 4. Le décollage se fait en douceur. Une montgolfière s'élève si délicatement que bien des gens ne sentent même pas l'instant où elle quitte le sol. L'ascension se fait lentement jusqu'à l'altitude souhaitée, généralement à quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Ce changement graduel permet d'admirer un décor qui se transforme peu à peu. Chaque champ devient une section d'une vaste courtepointe sillonnée de routes et de rivières, séparant les taches colorées des secteurs habités. Un spectacle particulièrement frappant dans des régions agricoles comme le Haut-Richelieu. 5. C'est paisible tout en haut. Une montgolfière se déplace à la vitesse du vent, souvent entre 7 et 20 km/h, une fois en hauteur. Votre pilote n'a ni volant ni gouvernail. Il ajuste plutôt l'altitude en fonction des courants d'air. Le vol est silencieux, à l'exception du brûleur qui s'active à l'occasion et très stable, puisque l'appareil se laisse porter par le vent. Nul besoin de vous attacher. La nacelle profonde est conçue pour assurer votre sécurité, même debout. Le vol en soi dure généralement une heure, parfois un peu plus. 6. Chaque atterrissage est différent. Avant l'atterrissage, votre pilote présente les consignes de sécurité, notamment celle de plier les genoux et de vous agripper aux poignets. Le retour sur Terre est l'étape la plus technique et varie considérablement selon le lieu et la vitesse des vents près du sol. Cela implique parfois quelques secousses, voire une nacelle qui bascule sur le côté. L'activité se conclut souvent par une petite célébration, comme une photo commémorative ou une coupe de mousseux. Il s'agit là d'un clin d'œil à une tradition française du 18e siècle. Les premiers pilotes offraient une bouteille de champagne aux fermiers apeurés par l'atterrissage d'un immense ballon dans leur champ. 5 faits intéressants sur la montgolfière. Il s'agit de l'invention de deux papetiers français, les frères Joseph Michel et Jacques-Étienne Montgolfier. L'idée leur serait venue en observant des papiers et des tissus s'élever au-dessus des flammes. Les passagers du premier vol, le 19 septembre 1783, étaient un mouton, un canard et un coq. Le trajet a duré 8 minutes. Depuis 2005, le record d'altitude en montgolfière est de 21 027 mètres. Son détenteur, l'Indien Vijaypat Singhania, a effectué ce vol dans une nacelle pressurisée avec masque à oxygène. Les brûleurs produisent de 15 à 30 millions de BTU selon le modèle. Cela représente jusqu'à 500 fois la puissance d'un barbecue au propane typique. C'était ce qu'il faut savoir avant un premier vol en montgolfière. Un texte commandité paru le 29 juin 2026 dans la presse.
Consultez pour vos douleurs. Un texte commandité paru le 5 mai 2026 dans la presse. Acupuncture, chiropratique, massothérapie, ostéopathie et physiothérapie, chacune de ces spécialités peut vous soulager d'une multitude de douleurs. Elles reposent toutefois sur des approches bien différentes et leurs thérapeutes développent souvent des expertises particulières. Dans chacun des scénarios à suivre, qui sera généralement le mieux placé pour vous aider ? Petit 1. Après une chirurgie, vous aimeriez retrouver un maximum de force musculaire et de mobilité. La physiothérapie. L'approche des physiothérapeutes repose sur une rééducation structurée par le mouvement, souvent après une blessure ou une intervention médicale, ou en cas de douleur chronique. Des exercices ciblés à effectuer à la maison sont couramment proposés pour consolider les progrès réalisés en clinique. Petit 2. Vous souffrez de maux de dos fréquents et des collègues vous font remarquer que votre posture a changé. La chiropratique. Les chiropraticiennes et chiropraticiens sont formés pour évaluer et traiter les troubles mécaniques de la colonne vertébrale. Leurs ajustements manuels visent à corriger la posture et à améliorer la mobilité articulaire, notamment en cas de douleur lombaire liée à un désalignement ou à une tension musculaire. Petit 3. Vous ressentez des tensions musculaires et avez de la difficulté à vous concentrer en raison d'un stress intense. Vous cherchez un moyen de vous détendre. La massothérapie. Les massages de détente sont conçus pour relâcher les tensions musculaires et favoriser un état de bien-être. Ils apaisent le système nerveux et offrent un répit bienfaisant face au tracas du quotidien. Petit 4. Rien ne semble aider vos migraines. Vous accueillez favorablement l'idée d'une approche naturelle et holistique visant à rétablir votre équilibre intérieur. L'acupuncture. Les acupunctrices et acupuncteurs voient le corps humain dans son ensemble et cherchent à rétablir son bon fonctionnement en stimulant des points précis à l'aide de fines aiguilles. Cette approche peut apaiser divers problèmes de santé, dont les maux de tête, l'arthrose, les troubles digestifs et les douleurs menstruelles. Petit 5. Récemment, vous vous entraînez avec plus d'intensité et ressentez une fatigue musculaire accrue. Vous aimeriez vous en remettre plus rapidement afin de poursuivre votre lancée. La massothérapie. Les athlètes et les personnes très actives ont souvent recours aux massothérapeutes pour soulager les tensions musculaires et favoriser une meilleure récupération. Des massages réguliers peuvent aussi prévenir certaines blessures liées aux mouvements répétitifs. Petit 6. Après un léger accrochage en voiture, vous ressentez fréquemment des tensions généralisées et des engourdissements aux extrémités. Vous vous réveillez parfois avec un torticolis. L'ostéopathie. Les ostéopathes considèrent le corps comme un vaste ensemble de systèmes interreliés. En cas de traumatisme mineur, leurs manipulations en douceur peuvent aider à relâcher des tensions musculaires ou articulaires susceptibles de comprimer un nerf et de provoquer des engourdissements. Petit 7. Vos articulations vous font souffrir, en particulier vos hanches et vos genoux. Vous cherchez une approche structurée reposant sur des interventions directes pour soulager votre inconfort. La chiropratique. En plus des maux de dos, les ajustements chiropratiques peuvent soigner les douleurs articulaires au cou, à la mâchoire, aux hanches, aux jambes et aux bras lorsque la mécanique du corps est perturbée. Petit 8. Vous ne souffrez pas d'une blessure spécifique, mais plutôt d'un inconfort généralisé. Vous avez l'impression que quelque chose cloche dans votre corps. L'ostéopathie. Les ostéopathes analysent le corps dans sa globalité afin de déceler les déséquilibres subtils qui peuvent perturber le bien-être général. Cette approche est particulièrement bien adaptée aux maux diffus et persistants qu'aucune cause évidente n'explique. C'était « Qui consulter pour vos douleurs ?» un texte commandité paru le 5 mai 2026 dans la presse.